VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. Soudan du Sud, un convoi militaire ougandais lourdement armé a pénétré aujourd'hui en territoire sud-soudanais pour sécuriser la route menant à Djouba, la capitale, et évacuer les Ougandais bloqués dans cette ville. Des centaines de soldats et des véhicules blindés formaient le convoi d'après l'AFP, avec une cinquantaine de camions destinés à l'évacuation d'environ 3000 Ougandais bloqués à Djouba où de violents combats ont opposé de vendredi dernier à lundi les forces gouvernementales aux ex-rebelles. L'armée ougandaise a coordonné cette évacuation avec les forces armées sud-soudanaises. A noter aussi que les États-Unis ont déployé quelques 40 soldats à Djouba. Ces troupes américaines ont été envoyées pour protéger l'ambassade des États-Unis et aider à exécuter l'ordre d'évacuation du personnel non essentiel donné par le département d'État américain. Au Gabon, plusieurs personnalités ont déposé leur candidature pour l'élection présidentielle du 27 août. L'opposition a en outre introduit des recours pour contester la validité du dossier du président sortant Ali Bongo Ondimba. Les détails avec Anastasie Tudiech.
19 dossiers ont été déposés à la date butoir, mardi. Face au président Ali Bongo, 57 ans, plusieurs anciens caciques du régime passés à l'opposition, dont Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, Guy Nzouba Ndama, ancien président de l'Assemblée nationale, et Casimir Oyemba, ancien premier ministre. Les dossiers de candidature doivent être validés par la commission électorale au plus tard 30 jours avant le scrutin du 27 août. Deux partis d'opposition, l'Union nationale et le Rassemblement Héritage et Modernité, affirment avoir déposé des recours pour contester la candidature d'Ali Bongo, accusé d'avoir falsifié son état civil. Le scrutin est à un seul tour, il y a plus de 628 000 électeurs inscrits, une baisse par rapport à la présidentielle de 2009, pour laquelle ils étaient quelque 813 000. Le ministère de l'Intérieur explique cette différence par la mise en place de listes électorales biométriques en 2013 et la nécessité de tout reprendre à zéro.
À Gao, dans le nord du Mali, une délégation gouvernementale est sur place pour essayer de ramener le calme après les manifestations de jeunes qui ont fait 4 morts et plusieurs blessés. Les jeunes sont encore sortis hier pour la 2e journée consécutive pour protester contre les autorités intérimaire et le programme de DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, prévu dans les accords de paix issus du processus d'Alger. De Gao, le compte-rendu de notre correspondant Boubacar Touré.
Les jeunes manifestants ont été soutenus dans leur marche par des ressortissants vivant à l'extérieur, venus pour la circonstance. Madame Koulibaly Ramatamaïga, présidente du collectif des ressortissants du Nord à Paris.
Ces jeunes-là, au jour d'aujourd'hui, sont au chômage, elles sont délaissées. Ils ne peuvent même pas être cantonnés ni insérés dans aucun des dispositifs parce que tout simplement, il fallait que chaque jeune apporte une arme. Nous ne serons pas non plus d'accord par rapport à l'installation des autorités intérimaires. Moi, je suis la présidente du collectif des Maliens de France pour la paix. Il y a mon frère qui est venu des États-Unis. Nous avons d'autres frères qui sont venus du Ghana, d'autres qui sont venus du Togo. Nous sommes venus pour les soutenir.
Amadou Abakar, du haut de ses 25 ans, aspire à avoir du travail.
En tant qu'un citoyen nordicien malien, nous on est là, on a fatigué. Donc aujourd'hui là, Mali, il doit nous récupérer. Tu as vu non? Mali, il ne pense même pas à nous. Donc c'est à cause de ça, nous on est debout. Soit on va mort ou bien c'est fini. Faut que Mali nous donne le travail. En cantonnement, on veut pour cantonner sans amener armes. Les armes qu'on a trouvées, c'est ça qu'on a donné. Et le jour que Mali est venu, on a donné beaucoup d'armes. Donc c'est ça. Nous on veut Mali ne qu'à nous donner le travail. C'est ça on fait.
Comme si les 4 morts et les nombreux blessés ne suffisaient pas, les jeunes sont descendus encore ce mercredi matin dans la rue. Des tirs ont été entendus, un jeune a été grièvement blessé. Cette fois-ci, la revendication des jeunes est le départ de certaines autorités de Gao. Abdou Nasser Idrissa, membre de la commission d'organisation de la marche.
La jeunesse de Gao demande le départ pur et simple de monsieur le gouverneur, le départ du commissaire, le départ du CB, le départ en tout cas de tout cela qui ont assassiné ces jeunes qui n'avaient ni armes, qui n'aspiraient qu'à un droit.
Massaoud Maïga, qui a de quoi à se faire cantonner, pense que cette marche n'a pas son sens.
Tout ça là, ça c'est un désordre. Il y a les malfaiteurs parmi les gens, ils vont profiter à cause des marches, ils vont profiter pour casser les trucs des gens. Tu vois, tout ça là, c'est pas obligé quoi. Nous, on a besoin de paix seulement. Ce que les gens aiment, ça ne peut pas se faire. Il y a beaucoup de gens qui ont des armes, ceux qui vont cantonner. On peut cantonner avec son arme, celui qui n'a pas un arme ne peut pas cantonner.
En tout cas, si les experts pensent que c'est le meilleur accord que le Mali puisse obtenir, le gouvernement du Mali a du mal à expliquer clairement le contenu du document pour les populations à la base. Gaou Boubacar Touré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le président du Burkina Faso est attendu en Côte d'Ivoire à la fin du mois. Ce sera la première visite de Marc-Christian Caboré en tant que président. Cette visite entre dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Écoutons l'analyse de Rabanki Aboubakr Zida, directeur général des éditions Sidoya au Burkina Faso, au micro de John Lyndon.
Au-delà des États, au-delà des frontières, chaque jour, il y a des dizaines, sinon des centaines de camions, de cars qui quittent le Burkina pour la Côte d'Ivoire. Chaque jour, il y a le train qui circule entre les deux pays. Chaque jour, il y a des vols, des compagnies aériennes qui amènent des centaines de Burkinabés en Côte d'Ivoire et vice-versa. Donc ça veut dire qu'au-delà de tout ce qui se passe, de tout ce que les gens voient, les populations, de façon pragmatique, sont en contact. Ils font des échanges et ils travaillent ensemble, surtout dans le cadre de l'UEMOA, des entreprises burkinabées qui interviennent en Côte d'Ivoire, des entreprises ivoiriennes qui interviennent au Burkina. Je pense que quand on est à une certaine distance, les gens pensent que les choses sont figées et que voilà, il n'y a pas de contact entre les deux pays. C'est totalement faux. Parce qu'au-delà de tout ce qui se passe, j'insiste là-dessus, les populations sont en contact et la vie continue de part et d'autre comme si de rien n'était.
Rabanki Aboubakr Zida, directeur général des éditions Sidoya au Burkina Faso. Au Zimbabwe, le pasteur Ivan Mawarire, chef de file de la contestation citoyenne, a appelé aujourd'hui à continuer la grève pour protester contre le régime autoritaire du président Robert Mugabe au pouvoir depuis 1980. Le pasteur Mawarire a été libéré hier soir à Harare, la capitale, après que la justice eut rejeté les charges de tentative de renversement du gouvernement formulées contre lui, John Lyndon.
À la sortie du tribunal, Ivan Mawarire arborait un drapeau zimbabwéen devenu le nouveau symbole de la résistance. Il a été accueilli en héros par ses partisans après la décision du juge rejetant sa détention. D'après Maître Harrison Komo, son avocat, le parquet a essayé d'introduire de graves chefs d'accusation de tentative de renversement du régime. Son client n'a pas été informé de ces charges au poste de police avant d'être présenté à la justice, comme l'exige la procédure. Le juge a donc refusé sa détention. Le pasteur baptiste de 39 ans, inconnu il y a quelques semaines, s'est fait rapidement un nom. En avril, il avait posté sur Internet une vidéo où il dénonçait l'incurie et la corruption du régime de Robert Mugabe. Très actif dans les réseaux sociaux, il fait partie des organisateurs de la grève générale du 6 juillet qui avait paralysé le pays. Il avait été arrêté mardi pour avoir de nouveau appelé à deux journées de débrayage, mais hier, la mobilisation a été très faible.
Présidentielle américaine 2016, alors que la campagne s'accélère, une querelle a éclaté entre un juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, et le candidat républicain présumé Donald Trump. La controverse soulève des questions d'éthique et divise les juristes. Timothée Donagmaï.
La juge Ginsburg, âgée de 83 ans, siège à la Cour suprême depuis sa nomination en 1993 par le président Bill Clinton. Connue pour son franc-parler, elle a déclenché l'ire du candidat républicain présumé Donald Trump en déclarant au New York Times au sujet d'une éventuelle arrivée de Trump à la Maison-Blanche « Je ne peux pas imaginer ce que serait le pays » avant d'ajouter avec un brin d'humour « Il serait peut-être temps d'émigrer en Nouvelle-Zélande ». La réaction de Trump n'a pas tardé. La juge Ginsburg a embarrassé tout le monde en faisant de stupides déclarations politiques à mon sujet, a-t-il écrit sur son compte Twitter en appelant Mme Ginsburg à démissionner et à présenter des excuses à ses collègues de la Cour.
La sortie de la juge Ginsburg est d'autant plus inhabituelle que les membres de la Cour suprême des États-Unis sont connus pour leur réserve vis-à-vis des débats politiques. Et on termine avec la Grande-Bretagne où la première ministre Theresa May n'a pas perdu du temps pour former son gouvernement et entamer la difficile tâche de commencer le retrait effectif du Royaume-Uni de l'Union européenne. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.